François Veil, je voulais revenir sur l'intervention de Michel Berry tout à l'heure à propos de la relation justice et institutions concernées. Au ministère de l'Équipement, l'inspection générale est systématiquement saisie de tous les accidents importants dans le domaine terrestre, maritime ou aérien. Et donc, on a ce problème depuis très longtemps qui n'est pas du tout résolu, qui est la relation avec la justice, puisque les inspecteurs qui sont commis à faire l'inspection vue du point de vue technique sur les causes de l'accident et les responsabilités, en général, c'est très compliqué d'établir des relations saines d'échanges réciproques avec le juge d'instruction commis par la justice. Et c'est effectivement un frein considérable au résultat, en tous les cas pour la communication publique. Et le retour d'expérience est pourtant, je suis d'accord sur l'importance du retour d'expérience, et d'ailleurs on a généralisé le système du BEA-R aux autres secteurs d'accidents que sont les transports, tous les autres secteurs de transport. Et enfin, une autre remarque sur la relation victime et accident, enfin et catastrophe. Moi, je suis absolument persuadé que l'essentiel de ce que demandent les victimes, c'est de comprendre les raisons, beaucoup plus que les punitions dans les problèmes de catastrophe du type aérien ou autre. Et que malheureusement, dans les périodes récentes, c'est le politique qui a souvent rajouté de la demande de punition par rapport à une demande qui était purement d'information du public.
Oui, Annie Sauvager, administratrice de société. J'avais une question justement sur les décisions qui ont un autre champ d'application que les solutions. Et cet autre champ est la responsabilisation des entreprises. Le constat est le suivant, la responsabilisation impliquée aux entreprises est de plus en plus large, de plus en plus profonde dans l'organisation. Et elle s'applique au conseil d'administration par une nouvelle législation qui lui demande de surenchérir sur ce qu'elle faisait précédemment et de s'intéresser à la qualité du contrôle interne, à la gestion des risques et à étendre sa responsabilité à des non-décisions. C'est-à-dire qu'une non-décision, le conseil est également responsable pour une absence de décision. Sur le constat de cette responsabilisation accrue et de cette extension d'une responsabilisation des conseils, finalement, du sommet de l'entreprise vers le tissu industriel sur lequel elle ne peut pas agir, je voudrais savoir quelles sont vos observations. Est-ce qu'il y a des modifications de comportement au niveau de la prise de décision? Est-ce que cela entraîne des modifications dans l'interaction avec le management, puisque, bien sûr, le conseil doit s'entourer d'informations sans être exécutif lui-même? Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ce domaine?
Oui, Jacques Boivin. C'est un peu la même question qu'a posé notre collègue de la SNCF. C'est en l'absence de prise de conscience du fait d'accidents ou d'autres brutales de l'importance de la haute sécurité, comment on passe d'un système de management de l'un à l'autre? Ça me paraît extrêmement difficile parce que quelqu'un qui veut introduire la haute qualité, il passe obligatoirement pour un empoisonneur.
Ouais, ou quelqu'un de tordu, compliqué.
Alors, je dirais que les organisations, même celles qui ne sont pas confrontées à un risque mortel en permanence, peuvent rencontrer des catastrophes. Alors le problème, c'est est-ce que, à partir de ça, l'organisation peut rebondir et utiliser cette catastrophe pour justement transformer un certain nombre de manières de faire? Et là, le rôle des dirigeants est essentiel. Il y a des organisations dont les dirigeants, quand ils sont confrontés à un problème majeur, réagissent et font une réflexion en profondeur. Et puis, pour d'autres situations, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je me dis qu'on pourrait appeler ce que j'ai appelé méta-règle une forme d'éthique de l'action et de la décision, parce qu'il y a un moment où on passe de la méthode à l'éthique. C'est pour ça que c'est appliqué ou pas, c'est en fonction aussi des convictions personnelles, du courage l'application d'un certain nombre de principes nécessite du courage. Lorsque le chef d'état-major de l'armée de l'air a décidé de créer l'impunité des erreurs non intentionnelles, ça a été un acte de courage personnel, parce que c'est non compris par un grand nombre de personnes. Et par rapport à la question sur les décisions des entreprises qui sont de plus en plus soumises à des contraintes juridiques et de responsabilisation, cela montre que la fiabilité dépend non seulement des acteurs, des organisations, mais aussi du contexte global, institutionnel de la société. Hein, si la non-punition est instaurée dans une entreprise, eh bien, il ne faut pas que par ailleurs le juge pénal aille chercher des retours d'expérience pour relever les noms qui sont cités dans les retours d'expérience, hein, il le fait. Hein. J'ai des exemples, hein, où il y a eu des retours d'expérience approfondis avec recherche des facteurs humains, sociologiques, psychologiques, qui étaient extrêmement intéressants. C'était vraiment des études, des monographies. Et le juge, il prend ça et il dit « Ah, ben voilà, j'ai les personnes qu'il faut que je convoque. » C'est ça le problème. Donc c'est l'ensemble d'un système qu'il faut faire évoluer. Mais moi, j'ai pas... c'est un travail de longue haleine qui doit concerner les façons de faire, mais aussi la culture globale, juridique, institutionnelle d'une société.
Oui, non, juste dans la suite de ce que disait Christian Morel sur le problème de la faute et de la reconnaissance des fautes non intentionnelles, il me semble que ça suppose une culture, ce que j'appelle une culture de l'apprentissage, des essais, des erreurs. Et on parlait de retours d'expérience. Les retours d'expérience sont d'une violence symbolique inouïe, à moins de faire des retours d'expérience extrêmement lisses, comme on en voit souvent. Mais si vous allez jusqu'au bout du retour d'expérience, ça va être très violent. Avec mes étudiants, je prends un exemple qui est superbe, qui est historique, c'est la thèse de Céline qui raconte l'histoire d'un jeune médecin hongrois qui s'appelle Semmelweis, accoucheur, et qui fait un super retour d'expérience en montrant que ses collègues autrichiens, s'ils se lavaient les mains en manipulant les parturientes, s'ils se lavaient les mains, on aurait des performances beaucoup plus intéressantes. On est au 19, c'est la fin du 19e siècle. Alors les étudiants disent, bah oui, c'est évident, il veut saver les mains, c'est quand même une évidence. Ce n'était pas du tout évident à l'époque, et ça a mis des années pour démontrer, il y a des tableaux, etc. C'est ceux qui sont intéressés, c'est un petit bouquin, hein, c'est la thèse de doctorat de Céline, et c'est un merveilleux exemple de la grande difficulté en culture d'apprentissage. Il faut remettre en question les prémices de départ. Et remettre en question les prémices de départ, ben, ce n'est pas du tout évident pour les entreprises. Alors j'ai une question pour toi là, sur le problème de controverse. Il y a quand même une question énorme qui est, pour que la controverse soit possible, il faut un espace démocratique de l'entreprise. Et donc l'entreprise, c'est plutôt un espace monarchique. Moi, j'ai sorti quelques études sur les discussions sur les mises en œuvre de décisions stratégiques, discussions d'analyse stratégique dans les grands groupes. Je vois pas très bien la place d'une conversation ou d'une controverse quand on a à prendre une décision stratégique dans un groupe, qu'il soit d'ailleurs français ou étranger. Donc la question que je pose, c'est est-ce que tu as réfléchi sur le rapport entre espace démocratique et espace de controverse ?
Je suis journaliste, mon nom est Claudie Berge, journal Sciences Humaines. Je voudrais revenir sur un point dont on a parlé, il y a monsieur là-bas qui l'a dit. À propos des victimes, qu'elles cherchent peut-être moins un coupable, comme on dit, une culture du pénal, qu'une information. Dans le domaine médical en particulier, c'est peu de dire qu'il n'y en avait pas. J'ai eu l'occasion d'enquêter sur deux erreurs médicales. Dans les deux cas, l'hôpital a laissé sortir le malade sans dire que l'opération avait été ratée. Ils l'ont découvert par eux-mêmes après. Et quand il a cherché une information, dans les deux cas, les hôpitaux avaient perdu, j'espère que vous entendez les guillemets, qui le compte-rendu d'opération, qui la radio essentielle. Maintenant, qu'il y a des médiateurs médicaux, ça se passe peut-être mieux. Vous avez parlé de l'accident du Mont Saint-Odile. Mais ce qui rendait les gens furieux, c'est qu'ils avaient l'impression que la justice était prête à incriminer le pilote et ses erreurs, mais pas du tout à regarder la conception de l'avion et si un tableau de bord peu lisible, par exemple, était en cause. La même chose maintenant avec AZF, les gens ne cherchent moins à ce qu'il y ait un coupable qu'à savoir si vraiment il peut exploser un tas de nitrate comme ça parce qu'il est là, c'est la faute à pas de chance et les procédures ou les procédés de fabrication ou les règles de sécurité dans l'usine n'ont rien à y voir. C'est inquiétant si on n'a pas ces informations-là.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais répondre sur le problème de l'espace démocratique. Bien évidemment, le processus de débat contradictoire, il doit venir du sommet de l'organisation. Il doit être instauré par le sommet de l'organisation. Je suis intervenu chez Renault dans un groupe qui est chargé de réfléchir, qui a été créé par Carlos Ghosn, pour réfléchir sur l'évolution du management de Renault, où je leur ai présenté ce que je vous ai présenté ce soir, et je suis aussi intervenu devant les chefs de personnel du groupe, et j'aurais présenté les méta-règles. Ils m'ont dit, mais ce que vous devriez faire, c'est aller présenter ça à la direction générale de Renault. mais le problème, c'est qu'il y a un moment où il faut que les responsables fassent leur propre révolution, en quelque sorte. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça.
Christophe Deblinière, j'anime la démarche culture sécurité chez Total. Et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir la mise en exergue des 11 méta-règles. Je m'interrogeais, j'aurais aimé vous préciser, est-ce que vos exemples sont quand même beaucoup pris dans le monde je dirais occidental et de culture de pays à développer, même si on peut en trouver d'autres? Est-ce qu'elles sont particulièrement efficaces et correspondent à ce milieu-là? Ou est-ce que, de votre point de vue, ce sont des invariants et où chaque culture a ses points forts et ses points faibles, selon le rapport au consensus, le rapport à la punition ou des choses comme ça?
Christian Succo, je suis médecin. Je voudrais revenir sur les erreurs non intentionnelles et leur non-punition. La question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que la punition des erreurs non intentionnelles permet de diminuer le nombre d'erreurs en médecine? La réponse, bien évidemment, est non. Ce n'est pas parce qu'un chirurgien sera condamné lourdement pour une erreur de côté que les erreurs de côté disparaîtront. Et d'autre part, il est évident, surtout en France, que lorsqu'un patient s'estime victime d'une erreur, il aille en justice pour faire indemniser son préjudice et éventuellement faire sanctionner le médecin responsable. Mais le problème de la prévention des erreurs médicales reste en l'état. Et pour être depuis plusieurs années dans ce domaine-là, c'est vraiment difficile de faire avancer le problème. On commence. Alors là, je vais vous choquer parce que ce que je vais vous dire, c'est contraire à l'éthique, contraire à la déontologie médicale et contraire à la loi française. Là où l'on peut espérer une diminution des erreurs médicales, c'est en laissant les médecins constituer des groupes de travail entre pairs, discuter de leurs erreurs entre eux et mettre au point des processus organisationnels pour les éviter. C'est contraire évidemment à la morale, je le répète, à la déontologie, à la loi française. Mais la loi française qui oblige les établissements à déclarer les événements indésirables graves est à l'origine d'un floc extraordinaire, puisque dans des régions qui comportent 300 hôpitaux, il y a au bout de 18 mois à peine une centaine d'événements indésirables, d'ailleurs pas très graves, qui ont été déclarés. Je crois qu'il faut savoir ce que l'on veut. Ou on veut du pragmatisme, et à ce moment-là, on accepte des choses qui ne sont pas forcément terribles, hein, mais il faut, je crois, bien poser le problème. Il n'est pas question que les médecins n'assument pas leurs erreurs. Il n'est pas question que les victimes ne soient pas, si vous voulez, indemnisées. Mais ça ne fera pas avancer la prévention des erreurs médicales.
Merci. Maurice Hessler, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Moi, je voulais intervenir dans la continuité d'une intervention, en particulier pour insister sur la rigueur dont il faut faire preuve dans l'application des méta-règles, en particulier sur la non-punition d'erreurs il y a une dérive possible dans la non-punition d'erreur, c'est la non-identification des erreurs. Parce que de l'absence d'enjeux liés à la juste non-punition, on dérive assez facilement vers la non-identification. Alors par quel mécanisme ? Par une autre méta-règle, qui est le retour d'expérience, l'analyse des causes, l'arbre des causes, et le foisonnement qu'on observe parfois, ce que mon collègue a appelé l'analyse lissée. Cette arborescence conduit à diluer, à faire un mécanisme de floutage qui fait que les erreurs, finalement, sont diluées dans un mécanisme assez flou. Et puis, il y a une autre rigueur aussi sur comment gérer les écarts pathologiques, mais presque, en particulier les défauts occasionnels de vigilance ou les défauts occasionnels de rigueur. Toutes ces situations qui sont à la frontière entre l'erreur et le manquement. Et ça, c'est une vraie problématique à approfondir. Quoi.
Je vais répondre sur le problème des erreurs, parce que vous avez identifié deux sujets importants. L'identification des erreurs, c'est vrai que pour analyser les erreurs, il faut qu'on les connaisse au départ. Et c'est pour ça que Air France a son système de Quick Access Recorder, qui est un disque optique numérique de haute capacité qui enregistre toutes les données du vol. C'est autre chose que la boîte noire. Et qui leur permet de savoir si un pilote il a atterri avec un angle de descente trop élevé par rapport à un atterrissage standard. Et le problème se pose pour l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air a des vols qui sont beaucoup moins standards, et donc il n'y a pas dans l'armée de l'air l'atterrissage standard, le vol standard qui est commercial, etc. Donc dans l'armée de l'air, ils recherchent un moyen de définir ce que seraient des missions normales pour avoir l'équivalent de ce qu'a Air France pour mieux identifier les erreurs. Voyez. Et le deuxième sujet, c'est le problème du floutage dans des arbres de cause qui deviennent tellement complexes qu'on ne sait plus vraiment quoi en tirer. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que dans les retours d'expérience, il faut une analyse de second niveau, c'est-à-dire qu'il faut le rendre parlant, pédagogique, et on ne peut pas avoir des retours d'expérience efficaces si on les laisse à l'état brut. Il faut les retravailler, j'aime pas le terme, il faudrait les médiatiser en quelque sorte pour les rendre utilisables dans l'organisation. Alors, concernant les principes, je répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que d'un côté, on se dit que les principes de la fiabilité sont très ciblés par rapport à une culture organisationnelle ou par rapport à une culture nationale. Et puis, par ailleurs, on observe que, il y a des choses qui sont tout à fait transposables. Lorsqu'on a appliqué la checklist de blocs opératoires dans 8 hôpitaux dans le monde, ce n'était pas que des hôpitaux anglais, américains et américains et européens. Il y avait des hôpitaux en Afrique et en Asie, et ça a marché tout aussi bien. Donc, il ne faut pas se dire que les contraintes culturelles sont de si gros obstacles que ça.
Bonsoir, je suis Elle Labonguers, je suis doctorante en sciences de gestion et j'ai aussi 20 ans d'expérience professionnelle comme simple salarié. Il y a une chose qui m'interpelle, vous dites que pour le problème de la punition ou de la non-punition des erreurs, de mon expérience, les gens se disent il va y avoir punition si je remonte quelque chose de négatif ou qui peut apparaître comme négatif à mes pairs. Donc en fait la stratégie c'est l'ouverture du parapluie, tout le monde sait qu'il y a un problème et le premier qui ferme le parapluie va tout prendre sur la tête. On dit que l'exemple doit venir d'en haut, du dirigeant. Donc là, moi, je dis quand même qu'il y a une remise en cause personnelle de chaque personne de l'entreprise, quel que soit le niveau où elle est, parce que ce n'est pas dans l'individualisme qu'on va arriver à faire changer les choses. Et je pense qu'un dirigeant, il veut que son business, il continue et qu'il continue bien. Donc, si les gens ont le courage d'appliquer et de faire remonter l'attitude et les problèmes et tout ce qui s'ensuit et voient qu'on peut rentrer dans une boucle vertueuse, mais que ce n'est pas de dire le dirigeant doit décider, nous on n'y peut rien, la société est faite comme ça, et voilà.
Bonsoir, Christelle Galvez, je suis infirmière de formation initiale.
Plus fort.
Et
infirmière.
Infirmière de formation initiale et directrice des soins dans une clinique privée à Paris. Et aujourd'hui aussi co-associée sur un centre d'entraînement à la sécurité des soins partout en France. Je voulais répondre un petit peu au débat qu'avait lancé le monsieur par rapport aux médecins pour qu'ils puissent travailler entre pairs sur leur pratique et le process. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que nous faisons partie d'une même équipe et que justement les erreurs seront peut-être moins importantes si on travaille en équipe, d'où la formation facteur humain et CRM. Donc je pense que là aussi la formation CRM, la formation continue des médecins et du personnel soignant est très très importante et que la formation initiale ne doit pas suffire.
Il est évident que les réunions de mortalité et comorbidité dans les établissements réunissent l'ensemble du personnel d'un service. C'est évident. Mais le problème en France, ce n'est pas ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est important, c'est ce qui se passe chez l'ensemble de la population, le généraliste. Quand un malade arrive à l'hôpital, il a été vu par un généraliste habituellement. Et si l'on veut améliorer la sécurité en France, il faut faire porter le poids des efforts sur les généralistes.
Bonsoir, Patrick Mignon, je suis commandant de bord instructeur sur Boeing 777 à Air France. Et ancien officier de sécurité des vols sur Airbus moyen courrier. Je peux répondre à différentes problématiques qui ont été abordées. Tout d'abord, concernant la dépénalisation et l'anonymat. Il faut savoir qu'aucun équipage n'est anonyme lorsqu'il s'agit d'un accident ayant causé mort d'homme ou blessure ou ayant causé une destruction d'appareil. Il y a des rapports qui sont faits spontanément ou sur enquête. Ces rapports comportent les noms de l'équipage, bien évidemment. L'anonymat ne concerne qu'en fait les rapports spontanés qui ont lieu au sein de la compagnie suite à des événements. Et ces événements sont de deux types. Soit un événement de type technique, il va donner lieu à un rapport qu'on appelle Air Safety Report, la SR, lequel est identifié et transmis à l'autorité. Et un deuxième type d'événement, c'est du relationnel. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'on constate que la grande majorité des accidents catastrophiques ont des causes relationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez tous les accidents que notre compagnie a eu à déplorer, ils sont intervenus sur des avions qui étaient intègres. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de panne majeure, sauf évidemment le Rio-Paris avec les sondes Pitot qui ont été obstruées par de la glace. Mais le Toronto, par exemple, l'avion était intègre. Donc tout ce qui nous intéresse dans cette problématique, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience sur ce qui s'est passé ou pas passé au sein d'un poste de pilotage. Et ce rapport-là est bien évidemment désidentifié, parce que si on commence à l'identifier, les gens ne vous diront plus ce qui se passe ou ne rapporteront plus les sentiments qu'ils ont. Et là, on n'est plus dans de la technique, on est dans du rapport humain. Alors, vis-à-vis de la justice, très rapidement, il n'est pas interdit d'espérer qu'on ait des juges intelligents en France, tout au moins, et que si on leur explique le pourquoi du comment, et j'en connais un qui s'appelle Alain Putz, qui a été président d'un tribunal et qui s'occupait de ça, si on leur explique pourquoi, eh bien, ils s'abstiendront de rechercher dans la limite de leurs moyens et de leur prérogative de rechercher des coupables immédiatement. Pour ce qui est des relations avec l'enquête, Christian Morel a fait référence plusieurs reprises au NTSB américain et de même au TSB canadien. Il y a une remarque très importante à faire, c'est la technique de ces deux bureaux d'enquête, qui est totalement différente du BEA dont monsieur a parlé tout à l'heure. Le BEA, soumis aux pressions des journalistes, des familles de victimes, du politique, des constructeurs, est tenu de faire des rapports préliminaires. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, le dernier rapport numéro 3 sur l'Air France 447 a donné lieu à pas mal de polémiques et continuera d'en donner, je pense. Le TSB canadien, son chef est directement rattaché au Premier ministre canadien, c'est-à-dire à la plus haute autorité de ce pays, puisqu'au-dessus de lui, il y a la reine d'Angleterre, qui est honorifique. En France, le BEA est rattaché à la Direction Générale de l'Aviation Civile, donc au directeur de l'Aviation Civile, qui est lui-même rattaché au secrétaire d'État au transport, lui-même sous l'autorité du ministre de l'Écologie, du Développement Durable, et ainsi de suite. Donc les niveaux de rattachement est bien entendu sous l'autorité après du Premier ministre et du Président de la République. Ce qui se passe, eh bien c'est simple, c'est que il y a tellement de niveaux d'implication qu'à partir du moment où vous avez ces niveaux hiérarchiques, les pressions et les fuites sont possibles. Alors quand le TSB canadien fait son rapport, il a très clairement dit dès le début, pour éviter toute polémique, qu'il ne produirait aucun rapport intermédiaire. Mais ça suppose que les familles de victimes, les constructeurs, l'opinion publique en général soient capables d'attendre les résultats. Et ça me ramène à ce qu'a dit Christian très bien dans tous ses livres, c'est que pour faire changer les processus qui nous amènent vers la haute fiabilité, il faut pouvoir prendre son temps. Et c'est pas dans l'urgence qu'on fait ce genre de choses, c'est-à-dire il faut être capable d'analyser les avantages de tels changements, voire même de les quantifier. Voilà.
Je m'appelle Jean-François Allouche, j'ai travaillé longtemps dans les transports, beaucoup les transports publics. C'est une question qui est un peu en marge du débat, mais qui m'intéresse quand même. Et j'ai notamment travaillé en Corée. Donc, tout ce qui a été raconté à propos de Korean Airlines m'a particulièrement retenu mon attention. Je voulais savoir si, parallèlement au succès enregistré par Korean Airlines en matière de sécurité, grâce aux efforts portant sur les facteurs humains et en particulier le sens de la discipline ou celui de la hiérarchie versus la spontanéité des observations bien fondées, les sociologues s'étaient penchés ensuite sur les problèmes que peuvent rencontrer les Coréens en question dans leur vie quotidienne, leur vie familiale, leur vie sociale, où normalement on ne se comporte pas comme ça. Autrement dit, les bons réflexes qu'on leur a instillés en matière de sécurité ont-ils un contre-coup sur le reste de leur conduite? Est-ce que ça a été observé? Ça m'intéresserait.
Sont font-ils traités de délurés quand ils reviennent dans
la vie normale? En quelque sorte.
Alors juste, dernière question.
Oui, merci Michel et merci monsieur de votre exposé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été pendant quelques années le directeur des hôpitaux au ministère de la Santé et en ce moment je suis notamment membre de la revue qui s'occupe de responsabilité médicale et qui s'appelle tout simplement Responsabilité. Alors, ce que vous avez dit, bien entendu, s'applique totalement au secteur de la santé. Néanmoins, je suis totalement en désaccord, monsieur, avec vous. Bien entendu, ce qui se passe au bloc opératoire ne peut pas concerner que les seuls chirurgiens. Simplement, il y a une telle habitude de fonctionnement dans certaines équipes chirurgicales, parce qu'il y a des grandes variations d'un établissement à l'autre, pour que malheureusement ceci, l'application de ces règles, soit encore beaucoup plus l'exception que la règle. Alors, quelques commentaires sur ce sujet très rapide. Madame, vous avez tout à fait raison. Vous savez que les responsabilités médicales dans les hôpitaux dépendent du directeur des hôpitaux. Donc, pendant 6 ans, elles ont dépendu de moi. Il y avait une règle générale, effectivement, qu'on ne retrouverait jamais le dossier. D'autre part, bien entendu, aujourd'hui, vous savez qu'on a inventé, pour répondre à ça, avec un discours fétide sur la qualité, toute une série de vigilances. Et la raison pour laquelle les vigilances ne s'appliquent pas, c'est parce que, bien entendu, il y a des punitions. Il y a un de mes amis qui dirige un hôpital dans le sud de la France qui avait fait une déclaration malheureuse pour lui de matériaux vigilance. Donc, il y avait un lit fluidisé qui avait un peu chauffé les fesses d'une vieille dame. Elle s'était levée, elle avait dit que son lit lui chauffait les fesses. Bon, bref, il avait fait une déclaration de matériaux vigilance. Et 3 mois après, comme dans les films avec Francis Blanche, l'inspecteur Ledur et 2 ou 3 personnes ont débarqué. Et depuis, il n'y a plus jamais de problème de vigilance dans cet établissement. Donc, il y a effectivement tout ce que vous dites, monsieur, pourrait être illustré. La question curieuse et paradoxale, mais on la traitera peut-être une autre fois, c'est comment se fait-il alors que ce que vous suggérez a le fondement empirique, l'évolution et notamment l'évolution du système de santé en France va exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand vous regardez les règles de sécurité qui s'appliquent aux hôpitaux, il y en a 43 familles. Alors je ne parle pas des pompiers, hein, peut-être dans la salle, mais qui ont complètement pété les plombs et qui nous inventent des règles où la vie sauvée coûte à peu près 2 milliards d'euros. Mais toutes ces règles, ou la somme des règles qui s'impliquent au secteur hospitalier deviennent totalement inapplicables et conduisent à une aliénation des équipes hospitalières qui rendent d'ailleurs les questions de sécurité tout à fait difficiles. Alors je vous terminerai simplement en vous racontant ma double erreur préférée pendant ces 6 années à la direction des hôpitaux. C'est donc une équipe qui se trompe de jambe pour une amputation. Ça, c'est la première erreur. Et ils se disent, zut, quand même, on lui a coupé la jambe. Ça serait bien d'essayer de lui sauver celle qu'on aurait dû couper. Et ils ont réussi à la sauver.
On laisse le dernier mot, le mot de la fin aux deux orateurs.
Bon, moi, j'ai été frappé en écoutant le débat par l'importance, finalement, de ce principe de non-punition qui, finalement, a focalisé presque toute l'attention, alors que beaucoup d'autres choses étaient intéressantes et originales dans le livre de Christian Morel. Je dois dire que je suis à la fois en tant que chef d'entreprise et en tant qu'ancien de la sûreté nucléaire, je suis très partagé par rapport à ce principe qui a été longuement beaucoup vanté. En effet, je ressens le risque dans ce principe de punition. D'un côté, j'en comprends bien la nécessité dans les exemples qui sont cités, quand les choses peuvent se présenter de façon un peu ouatée, un peu quand l'accident n'a pas fait de victimes, quand il n'y a pas eu non plus de dégâts matériels, les choses peuvent se présenter comme ça. Malheureusement, dans la vie de l'entreprise, bien souvent, les problèmes ont des conséquences. Les marchés qui sont perdus sont perdus. Les personnes accidentées, même s'il n'y a pas mort d'homme, sont accidentées. Les productions livrées peuvent être rendues difficiles ou défaillantes par un peu trop de légèreté. Et je pense que ce point qui a focalisé le débat mériterait un petit contrepoint en faveur de la nécessité de respecter l'autorité. J'ai conscience de terminer mon intervention.
C'est dommage que tu casses le consensus un peu tard, parce qu'on aurait pu...
Une parole qui va paraître un peu réactionnaire.
Tu aurais dû jouer l'avocat du diable. C'est bien joué, c'est bien joué.
Voilà, merci de votre attention.
Je conclurai avec deux idées très rapidement. Je répète que les différents principes que j'ai exposés sont liés les uns aux autres. Le résultat d'expérience, le retour d'expérience, il est fondé sur la non-punition. Il est fondé également sur l'interaction permanente quotidienne. Il est fondé sur la formation aux facteurs humains qui, le débat contradictoire est lui-même alimenté par la formation aux facteurs humains, par une responsabilisation des équipes. Donc, les métarègles forment un système complet. On ne peut pas en détacher une. Ça n'a pas de sens, ça ne sera pas efficace. Et il y a eu beaucoup de remarques sur l'importance des contraintes culturelles, juridiques, institutionnelles. Effectivement, je suis d'accord, mais elles peuvent aussi évoluer. Ça demande du temps et je pense que globalement, il ne faut pas être trop pessimiste.
Voilà. Merci. Alors, le buffet est à gauche en sortant.